ça nous semblait indispensable de 14-18, puisqu'on s'est aperçu que cette usine était atypique et inconnue certainement des personnes qui habitent dans le secteur, alors que ça a été quand même un lieu de vie quand on s'aperçoit que pendant la guerre, il y a eu jusqu'à 6000 personnes qui ont travaillé pour la mauvaise cause peut-être, mais qui était la fourniture de poudre de guerre. Donc quand tout le monde a parlé de la guerre 14-18, beaucoup de municipalités se sont précipitées sur 14. Et nous, à ce moment-là, nous avons décidé de ne pas le faire en 14, mais en 18. Donc on s'est donné 4 ans de recul et de recherche. Et ça nous a permis de fouiller et trouver tout ce que nous avons trouvé pour le livre. La poudrerie est née en 1689 de la volonté de Louis XIV. C'était la poudrerie du roi de France. Donc toutes les productions de poudre de guerre pour les besoins du pays étaient fabriquées sur Pont-de-Buis. Donc il a semblé logique qu'en 14 elle soit sollicitée. C'était la destination de l'entreprise de la poudre à canon. C'est un établissement militaire.
Combien est-ce qu'il y avait d'équivalents en France? Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas que la poudrerie Pont-de-Buis. En gros, qu'est-ce qu'il y avait comme type de poudrerie?
10 poudreries directement, dépendant directement du ministère de la guerre, réparties sur tout le territoire.
Donc, quand la guerre est déclarée, qu'est-ce qui se passe pour la poudrerie?
Un peu avant déjà, ils ont commencé à agrandir depuis la fin de la guerre de 1870. Avant-guerre, ils ont modernisé toute la centrale électrique, ils ont commencé à augmenter la production. C'est surtout l'augmentation de production qui importait. Donc, c'était agrandissement, c'était technique. Et le personnel, c'est parce qu'il a fallu remplacer les hommes mobilisés.
Quand la guerre est déclarée, à partir de quand est-ce que les besoins augmentent vraiment sensiblement?
Tout de suite. Les commandes prévisionnelles n'étaient pas suffisantes pour les besoins réels. Ils n'ont pas eu à atteindre les commandes qui leur étaient faites parce que les entreprises fabriquant les douilles et les cartouches n'arrivaient pas à fournir.
Il fallait produire, donc il n'y avait pas de question de financement autre que l'État. Donc c'est vrai qu'ils ont produit, fabriqué en permanence.
Ils ont produit, ils ont construit des bâtiments quand ils en ont eu besoin, c'est-à-dire quotidiennement. Ils ont détruit, ils ont refait, ils ont détruit, ils ont refait. Alors de là à dire quel type d'atelier, quel machin, c'est trop compliqué, il y en a beaucoup trop. La plus grosse question, ça a été la fourniture d'énergie et la fourniture de matières premières. C'était ça, et eux, ils étaient dépendants du moulin blanc qui fournissait le coton poudre et les fabricants privés qui fournissaient l'alcool. Là, ils étaient dépendants.
Mais la production, l'augmentation de la production et du personnel d'ailleurs par la même occasion a été linéaire ou est-ce qu'il y a eu des gros afflux
Tout est linéaire sur les 4 ans.
Alors on en arrive à maximum combien de personnes et quand à peu près quoi?
5 à 6 000 et le plus gros important c'est 17. Déjà fin 17, début 18, ils commencent à licencier et les productions baissent. Parce qu'il y a beaucoup moins de... C'est la fin de la guerre, il y a beaucoup moins de besoins.
J'imagine que le recrutement n'a pas été toujours facile. Comment est-ce qu'ils recrutaient? Qui est-ce qu'ils faisaient venir?
Donc il fallait faire appel aux femmes pour remplacer les hommes partis au front. Donc les femmes venaient des alentours, mais également depuis Quimper. Hein. On a bien trouvé qu'il y avait des trains qui venaient de Quimper. Et ensuite, il y avait également des hôtels, des personnes qui louaient des chambres pour que les personnes qui venaient de loin puissent rester travailler, puissent rester vivre et habiter Pont-de-Buis.
Ils ont aussi été chercher plus loin, dans les colonies par exemple, des gens qui travaillaient ou pas?
C'est pas la poudrerie spécifiquement qui est allée les chercher, c'est l'État français qui est allé dans les colonies et en Chine, parce que la Chine n'était pas une colonie, et qui veut contractualiser. C'était pas du tout, ils n'avaient pas un statut militaire, c'était un statut de salarié. Donc ils passaient contrat pour venir travailler. Ils étaient envoyés dans toutes les entreprises.
Et ils venaient d'où en particulier? Il y avait des nationalités qui dominaient
Ici, il y a eu des annamites pour commencer, en Asie. Ils ne sont pas restés parce qu'ils ne se sont pas acclimatés, et puis ça ne satisfaisait pas le travail, surtout des Kabyles après qui sont restés, qui sont venus.
Et la population de Pont-de-Buis, du coup les hommes de Pont-de-Buis, est-ce qu'ils travaillaient à la poudrerie et ils étaient exemptés de mobilisation sur le front? Ou est-ce que ça n'avait pas d'impact?
Les deux. La plupart partaient, mais ceux qui avaient des compétences particulières, qui étaient expérimentés, restaient de manière à pouvoir bien faire fonctionner les outils, bien assurer la production et éviter les accidents.
Pour le personnel, est-ce que ça a changé quelque chose, la guerre, j'imagine, en termes de conditions de travail? Est-ce que c'était plutôt positif, plutôt négatif?
Travailler 24 heures sur 24, samedi, dimanche compris, donc manifestement, c'était pas le rythme qui était avant la guerre. Donc ça a changé dans la mesure où il y a eu une accélération imposée, c'est sûr.
Et ils ont eu des contreparties ou pas?
Il y a eu des conditions de travail particulières pour les femmes, parce qu'il a été amené que les femmes travaillent la nuit notamment, donc on leur distribuait par exemple du café, il y avait des primes aussi particulières liées aux conditions de travail ou la cherté de vie en fin de guerre, hein, 17-18, on a parlé beaucoup de primes de cherté de vie, donc des conditions salariales particulières.
Il y a quand même eu des grèves pendant la guerre.
Partout, dans toutes les usines françaises, il y a eu des grèves puisque rythme de travail trop intense et pas assez payé. Cherté de vie parce que tous les gens qui habitaient derrière étaient soumis aux réquisitions, c'est-à-dire problème d'alimentation, problème de chauffage. Il y avait changement d'heure là aussi pour limiter la consommation d'énergie. Donc c'est tout le pays qui s'est mis en grève.
Donc c'était un peu au moment aussi où ça commençait à grogner sur le front. Enfin, je ne sais pas si c'est un hasard, mais...
Tout le monde était épuisé, tout le monde avait besoin, c'est ce qu'on peut comprendre.
Sur la population locale, enfin sur la commune plutôt, en termes de démographie, qu'est-ce que ça a eu de démographie et puis même au-delà d'économie, qu'est-ce que ça a eu comme impact cette explosion entre guillemets de la population de la poudrerie, enfin des effectifs de la poudrerie?
Un afflux de population énorme, c'est-à-dire des problèmes sanitaires à régler, fallait trouver de l'eau courante et de l'eau sanitaire, le logement, le transport, la voirie, la scolarisation des enfants. C'est tout ça qui a fait que Pont-de-Buis est beaucoup grossi. Donc la poudrerie a répondu comme elle pouvait en construisant des logements quand elle fallait, mettre en place des trains ouvriers parce que la commune était trop petite pour accueillir tout le monde.
Et il y a eu d'autres aménagements sinon à signaler dans la ville?
L'agrandissement de la gare, principalement l'arrivée de la poste. C'est important, oui, parce qu'il fallait aller à Châteaulin ou à Quimer ou Fou.
Alors en termes de produits, est-ce que les produits de la poudrerie ont été les mêmes du début à la fin ou est-ce qu'il y a eu des nouveaux produits qui ont été commandés, élaborés? Est-ce que c'était les mêmes types de poudre, etc.?
C'était les mêmes produits, c'était la quantité qui importait et ils n'ont pas fait de changement de produits, ils n'ont pas eu le temps de faire travailler la recherche.
Les produits de la poudrerie de Pont-de-Buis, ils allaient où? En fait, quel était leur chemin une fois qu'ils étaient fabriqués?
Ils allaient dans les usines de fabrication d'obus, puisqu'il fallait donc de la poudre pour pouvoir faire la fabrication des obus. Donc beaucoup sur la région ouest quand même, beaucoup Rennes, hein, beaucoup les usines. Mais c'était variable en fait, le ministère donnait à la poudrerie les destinations des poudres. Ça pouvait être Le Havre, ça pouvait être Rouen, ça pouvait être... Mais ça restait quand même le Grand Ouest, principalement le Grand Ouest.
Et ils y allaient comment? Avec quel mode de transport et sur quelle voie?
Alors ils allaient en train principalement. On a aussi vu qu'il pouvait y avoir aussi par bateau, mais on n'a pas. C'est plutôt la matière première qui arrivait en bateau, donc c'est vraiment par le train.
Quels sont les bâtiments qui restent encore visibles, qui datent de cette époque et qui restent encore visibles sur la commune? Bâtiments ou infrastructures?
Les maisons de sous-agents techniques qui sont dans la Grand Rue. Les quatre sont encore là. Ce sont des maisons de maître avec des plans bien définis, étages, cuisine. On les reconnaît. Elles sont en bord de route, les quatre, là, dans le virage. Elles sont assez importantes.
En termes de sécurité, puisque c'était quand même la guerre, donc du coup, ça fait de Pont-de-Buis un lieu stratégique, on va dire un site stratégique. Est-ce qu'il y avait une tension particulière? Enfin, qu'est-ce qui se produisait par rapport à ça?
Alors, il y avait tout un système de surveillance, en fait, avec un commissaire spécial qui était nommé par le préfet. Donc, il rendait des comptes très régulièrement au préfet. Il y avait également des gendarmes et l'armée qui surveillaient l'extérieur de la poudrerie.
Et il n'y a pas eu d'incident connu?
Non, pas vraiment. On a vu quelques petits rapports sur des espionnages, mais qui n'en étaient pas vraiment. C'est la petite histoire. Mais tout était quand même surveillé.
Quand la guerre s'est arrêtée, par contre, est-ce que la chute a été brutale? Enfin, comment est-ce que ça s'est passé?
Dès la fin 1917, on annonce des licenciements, licenciements des femmes, puisque les hommes vont commencer à rentrer du front. Donc là, c'est assez violent. Enfin, nous qui l'avons analysé, l'avons trouvé violent quand on voit qu'on peut licencier 400 femmes sur la même journée. Mais les rapports ne disent pas que l'ambiance est changée. On dit que ça reste calme et qu'elles sont un peu résignées, sans doute, à ne plus travailler à la poudrerie, à retrouver leur travail d'avant.
Et c'est intéressant d'ailleurs ce travail des femmes. Il n'y a pas eu à l'inverse, quand elles se sont mises à travailler à la poudrerie, des récriminations de la part des hommes ou de personnes qui auraient trouvé que c'était pas...
Les hommes n'étaient pas là parce qu'ils étaient au travail, donc c'était les épouses de ceux qui étaient au front qui travaillaient pour assurer la subsistance de la famille. Et donc elles se sont substituées à leurs époux, nous on n'a pas eu connaissance dans nos recherches qu'il y ait eu de l'attention particulière. De toute façon, ils avaient du mal à recruter, donc je pense que les récriminations n'auraient pas été bienvenues ni opportunes à ce moment-là.
Et qui s'occupait des enfants? Alors du coup, il y a eu des créations de dispositifs de garde spécifiques?
L'école maternelle, ils appelaient ça l'accueil petit enfant, est née à ce moment-là, oui. dans toutes les villes où il y a des grosses entreprises. C'est national, il fallait bien garder les enfants, il fallait pouvoir, c'est aussi pour ça qu'il y avait une protection sociale pour les femmes, qu'il y avait les chambres d'allaitement et ce genre de choses. C'était des pièces qui étaient mises à disposition des femmes pour qu'elles puissent allaiter. Dans la poudrerie, leur temps de travail était aménagé pour qu'elles puissent aller allaiter leurs enfants. Et c'est dans toutes les entreprises d'État, c'est une loi qui est passée en 16 ou 17.
Il y a eu une loi quand même sur la protection des femmes dans les entreprises qui travaillaient pour l'effort de guerre, en fait, toutes les entreprises privées ou publiques qui travaillaient pour l'effort de guerre. Et là, on a vu que les médecins, comme les ministères, se sont mobilisés pour maintenir quand même que les femmes puissent toujours faire des enfants, puisqu'il fallait que les générations suivantes... Et on avait quand même besoin de main-d'œuvre, donc il fallait les protéger.
Donc c'est les premières licenciées à la fin de la guerre. Après, qu'est-ce qui se passe d'autre de visible ?
Une baisse importante de production qui a fait que la poudrerie s'est interrogée sur son existence future.
Ah oui, déjà, même sur son existence même.
Ah, sur son existence même, oui, parce qu'elle est quand même éloignée du front, elle a nécessité beaucoup d'investissements, il y en a eu quelques-unes qui ont été construites, donc oui, c'est de son existence, et puis c'était la guerre des terres, donc on parlait pas des armements, mais bon, c'était la guerre des terres, ça a été tellement violent. Ça a duré 2-3 ans, et au début des années 20, ils ont recommencé à s'agrandir, avec diversification de production.
Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont commencé à produire alors du coup ?
Des gargousses, c'est des sacs en toile dans lesquels sont stockées les poudres.
C'est incontestable que l'importance de l'entreprise a fait qu'on s'est érigé en commune.
Qui a abouti, comme dit Ernestine, c'est une commune qui a beaucoup grossi. Et dès 1918, le préfet demande à ce que Pont-de-Buis soit érigé en commune. Ce qui n'a pas été du goût des maires de Saint-Ségal et de Quimer. Ils ont dit non, on va garder quand même, on va garder comme ça.
Sur quel document vous avez travaillé donc ?
Principalement des documents d'archives, archives départementales, archives de la poudrerie, archives communales, privées. Celle du Centre historique de la Défense à Châtellerault. Donc on a fouillé, on est une petite dizaine dans le groupe, donc on s'est déplacé en groupe, individuellement, chacun me listait un peu ses documents, et de là, on en a discuté, chacun ce qu'il en a ressorti.
Vous étiez combien dans le comité en fait, historique ?
Une petite dizaine.
Et donc vous êtes répartis les sujets un peu ?
Pas du tout. Non, chacun a fait son truc, on est revenu avec on a tout mis en commun. C'est en discutant que les thèmes se sont mis, et non, on était à plusieurs autour des ordi, et c'est en discutant qu'on rédigeait. Comme ça, c'est plus homogène, et chacun trouvait sa place, venait en fonction de ce qu'il voulait y mettre, enfin, de ses disponibilités, de ce dont il se sentait capable. C'est vrai qu'on est plusieurs universitaires, il y avait un universitaire historien qui avait le recul nécessaire aussi pour nous guider. Donc on est quand même 3 formés en histoire, ou histoire de l'art, des anciens poudriers, et après on a... des bénévoles passionnés. Et puis on a eu la chance de tomber sur une grosse source de documents avec les archives de la poudrerie.
Et vous avez eu le droit d'entrer dans la poudrerie pour prendre quelques photos à l'occasion ?
Oui. On a bien travaillé avec la direction de la poudrerie. On a eu l'occasion d'aller 3 fois vraiment visiter les structures, les anciennes structures de la poudrerie, de manière à bien visualiser ce qu'on avait dans les textes. Parce qu'on avait des plans ou des courriers, alors pour visualiser ce que c'était quand même bien plus pratique pour comprendre, parce que c'est quand même assez technique. Donc on a appris plein de choses, tous en tout cas, enfin j'espère.
L'emprise au sol de la poudrerie était de 125 hectares, donc c'est vrai que ça représente une certaine dimension, et chaque endroit était dédié à un temps de fabrication ou un temps de stockage. Enfin, on ne découvre pas une surface telle comme ça tous les jours, et c'est vrai que tout était bien isolé, où il y avait un suivi de production quand même, enfin, une logique de production dans l'installation des bâtiments. On ne s'en rend pas compte quand on y habite, parce que c'est boisé, elle n'est pas très vue, parce que c'est vrai que puis c'est une secret défense quand même, c'est un établissement produisant de la poudre, donc c'est vrai qu'il n'a jamais été très prolixe en information, très ouvert on va dire. C'était, donc c'est vrai que le Pont-de-Buisien lambda, il n'a aucune connaissance de ça.
Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le livre et l'exposition ?
La majorité de l'exposition reprend le livre, il y a quelques panneaux différents plus locaux. Sur les gens de Pont-de-Buis partis sur le front, sur les morts pour la France, les correspondances de gens locaux qu'on trouvait plus pertinent de mettre vraiment en expo. L'expo est plus locale.
Il y a des objets qu'on peut voir ?
Il y a des objets, oui, des objets de la poudrerie, des objets de soldats, un petit peu d'armes.